Bien, nous allons commencer. Lors de la dernière séance, quelqu'un m'avait demandé l'étymologie du mot aurige, le conducteur de le char. Alors, précisément, c'est une étymologie qui pose problème. Je vous donne la plus courante. Donc, aurige, c'était le cocher qui conduisait le char des anciens, et ça viendrait, avec beaucoup de réserve, de auré, qui voulait dire le mort, avec un S bien sûr, plus aguerre. Ago, c'est un mot qu'on a beaucoup manipulé. Aguerre, qui veut dire conduire, mener, guider, et qui a donné agir. Donc ça serait celui qui tient le mort et qui donc dirige l'équipage. Voilà. Nous avons aussi évoqué le livre explosif que j'ai fini par acheter de Jean-Paul Demoulet, je ne sais pas, il n'y a pas d'accent, intitulé « Mais où sont passés les Indo-Européens ?» Alors, je me propose de consacrer plus tard, quand je l'aurai lu, de consacrer une petite heure ou une petite demi-heure à vous en faire un résumé. Pour vous rassurer tout de suite, j'ai parcouru en diagonale le contenu de chaque chapitre. Ça ne remet pas en cause la théorie de la racine trinitaire augmentée par le thème, etc. Ce qu'il remet en cause, c'est la conception généalogique. Il y a une langue source et toutes les autres se démultiplient et continuent à vivifier cette source. Et d'autre part, ce qu'il remet en cause, c'est l'omnipotence de la théorie qui a alimenté les thèses fascistes, entre autres, et colonialistes. Voilà. Donc, nous pouvons continuer à travailler en toute quiétude. Alors, pour vous donner juste un aperçu, je vous lis un extrait où il synthétise ce qu'il a développé dans les paragraphes, dans les chapitres précédents. La question indo-européenne s'est trouvée dès l'origine à l'intersection de quatre champs disciplinaires qui n'ont cessé eux-mêmes de se développer et de se transformer. La linguistique, l'archéologie, la mythologie, l'anthropologie biologique, sans compter l'histoire tout court. Cette question a accompagné les évolutions, les métamorphoses et les conquêtes de ces quatre disciplines. Elle est ainsi pour chacune d'entre elles l'une de leurs illustrations, de leurs pierres d'achoppement, de leurs symptômes, de leurs égarements. Entre ces quatre disciplines n'ont cessé jusqu'à aujourd'hui de se nouer des cercles vicieux interdisciplinaires. C'est que, en tant que mythe identitaire, le mythe d'origine indo-européen est un mythe généalogique qui ne conçoit l'histoire des langues comme des sociétés que dans le prisme d'un arbre généalogique. Quelle que soit l'ampleur des nouvelles informations archéologiques, linguistiques, mythologiques ou anthropologiques qui n'ont cessé d'affluer, elles n'ont pu que conforter un modèle généalogique établi une fois pour toutes, Ce livre n'entend pas condamner, mais appeler à s'extraire du mythe généalogique. Et ma critique se veut d'abord tonique et positive. Par exemple, la convergence des textes et de l'archéologie semble bien suggérer la mise en place au cours du deuxième millénaire avant notre ère, dans une partie de l'Eurasie, d'une idéologie aristocratique et héroïque de l'âge du bronze, susceptible d'expliquer les convergences que l'on retrouve dans les mythes, la poésie, mais aussi l'ornementation et l'iconographie, sans devoir faire appel à une source commune et unique, antérieure de plusieurs millénaires. C'est attesté des modèles en réseau, des modèles multipolaires, des modèles chaotiques sur cette prodigieuse masse d'informations que devraient maintenant s'attacher les recherches à venir. Le modèle global qui reste à construire, et qui le sera un jour, devra certainement être très complexe. S'y imbriqueront, répartis sur une longue durée de temps, des phénomènes de diffusion, de mélange, d'acculturation, de convergence et même de conquête. Voilà. Vous voyez, on comprend tous les mots. Mais je vous promets que je vous en dirai un peu plus parce que ça a l'air passionnant et finalement, il me semble que l'humain est toujours contraint d'effacer la page pour la réécrire en croyant qu'il approche de la vérité. Et ça me paraît... ça m'interroge, ça me touche et ça m'intéresse.
Il y a eu deux émissions sur France Culture avec ce Demoule, l'une dans l'archéologie et une autre plutôt de sociologie. Je les mettrai sur le blog quand on aura parlé de ça.
Très bien.
C'était très intéressant.
Cet homme est d'une érudition extraordinaire. Bien. Alors, la semaine dernière, nous avons abordé la structure du mot où nous avons dépassé enfin l'étymon pour ajouter les choses et arriver même à ce que j'ai appelé des suffixes secondaires, c'est-à-dire ayant existé à date historique et permettant d'identifier aujourd'hui des suffixes génériques. J'avais donné l'exemple de Génétor, Génitor, Yanitar en sanskrit, Tor, Tartar en français. Et je vous avais dit que les préfixes étaient inconnus de l'indo-européen et avaient eu une existence tardive. Et j'ai jugé bon de vous photocopier un tableau des principaux préfixes latins et grecs qui ont nourri tous nos lexiques, je n'ose plus dire indo-européen puisque de toute façon là ça ne va pas, mais en tout cas tous les lexiques des langues qui nous entourent et qui nous sont relativement familières. Il y a deux pages, si quelqu'un veut m'aider à distribuer. Voilà. Alors Claude distribue les préfixes latins et moi je me réserve les préfixes grecs.
Thank you.
prenez pour la dame qui est là?
Non,
je ne prends pas. Est-ce que quelqu'un connaît son nom? Je vais garder tout ça au chaud. Alors, on va les regarder un petit peu. J'attrape les miens. Merci. Voilà, je voudrais juste attirer votre attention. Nous avions déjà commencé d'ailleurs sur certains préfixes qui ont eu, je dirais, un héritage extrêmement fécond. Ad, le deuxième de la liste des préfixes latins, qui évidemment subit l'assimilation régressive devant la première lettre du radical qu'il rencontre, ac devant c, ap devant p, as devant s, maintenant vous savez pourquoi, et aussi vous savez pourquoi tant de mots français commençant par a double la consonne suivante. Hein, c'est parce que le préfixe a entraîné ce phénomène d'assimilation régressive. Même chose pour cum, qui a eu un héritage beaucoup plus varié, puisque le ou se change en o et perd même le m, ou le m subit l'assimilation, hein, col, corps. Et là, vous retrouvez beaucoup de mots que vous connaissez, collège, coalition, compresse, bref, tous ces vocables qui vous sont familiers. J'attire votre attention sur le préfixe 10, qui est distinct de celui que nous allons rencontrer en grec, dus. Dus du grec, sur la page 2. Vous le voyez, dus, c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est le sixième exemple. Dus va donner, non, indique la difficulté, le malheur, et va donner dysfonctionnement, dystrophie. Et souvent, on trouve la faute, il n'y a pas le Y, il y a le I, parce qu'on le confond avec le préfixe latin dys, qui indique, lui, la séparation, la dispersion ou l'achèvement. Voilà. Je voulais juste attirer votre attention sur cette différence d'orthographe. Ex est aussi un préfixe intéressant puisque il fait partie de ceux qui ont donné un mot maintenant. On parle de son ex, on n'a plus besoin de mettre quoi que ce soit, ça fait fonction de mot entier. Et ce qui m'intéresse dans ce préfixe, c'est qu'il indique tantôt la privation, la séparation, la négation, tantôt l'achèvement. Alors on vous donne par exemple, comme exemple, exeo, qui veut dire aller hors d'eux, et qui a donné exit. C'est pareil, c'est le mot latin tel quel, hein, sur les sur les panneaux lumineux jusqu'à la sortie, un exéa,
un
exutoire, etc. Mais le mot expert, pas celui que vous voyez là, experts, privé de, expert, expertus, veut dire parfaitement achevé. Peritus en latin, c'est celui qui a les compétences. Et experitus, qui a donné expert, c'est celui qui est dans le parachèvement des compétences. Donc vous voyez, ex est un faux ami. Il a deux sens totalement distincts. Vous êtes familier, je passe à la colonne 2. Du préfixe inter, qui a multiplié multiplier les mots dans notre ère de la communication tous azimuts. Et c'est pareil, on parle de R inter, de France inter, à être en inter, et c'est aussi devenu un mot. Et puis, nous avons hérité de poste, hein, après, que l'on emploie encore dans post-mortem.
Post-scriptum.
Postpartum, voilà, etc. Ce sont des expressions qui sont restées. Un dernier, je descends à la lettre S, c'est ou, alors c'est devant consonne ou cède devant voyelle, qui signifie soit à part, à l'écart, soit sans. Alors, à part et à l'écart, on vous met un exemple intéressant, c'est duquere. Duquere, c'est conduire. Hein, ça a donné duc. Hein. Donc, seducere, amener à l'écart, a fini par donner séduire. Quand on séduit, on amène sur le, comment dirais-je, sur un chemin dangereux, ou bien on s'y laisse amener. Hein, voilà. Et l'autre sens, le sens privatif a donné securus. On vous dit que ça veut dire sans souci, mais le souci en latin c'est cura. Hein? Une sinecure, c'est un endroit sans souci. Donc securus, c'est aussi quelque chose qui est sans souci. Ça a donné sécure, que l'on trouve parfois. Et puis, le C est tombé et a donné sur, où on ne reconnaît plus du tout cette racine cura, le souci. Alors, chez les Grecs, le préfixe anti me paraît aussi intéressant. Anti, donc, ant devant voyelle, ant avec theta devant esprit rude, puisqu'évidemment il apporte une inspiration. On vous dit que ça a donné en face de, contre et en échange. En face de, contre, moi j'ajouterais en avant. Anti en grec et ante en latin, c'est le même préfixe. Et sachant cela, que ça a aussi le sens de en avant, on peut inclure le mot antichambre, qui n'est pas évidemment l'inverse d'une chambre, qui peut être en face ou contre, mais qui précède la pièce où l'on veut se rendre. Voilà. Vous êtes perdu ?
On le retrouve en grec moderne, parce qu'antiparos.
Exactement. Mais le vocabulaire grec a très peu changé depuis l'Antiquité. Et ça aide bien. Ça n'aide pas pour tout, mais ça aide bien. On vous indique aussi que anti veut dire un échange de. On vous donne l'exemple de antidosis, qui est donné en échange, dosis c'est le don, et ça a donné aussi antidote. Voilà. Alors, dia, à travers, et achèvement. Eh bien, le mot diable, ça vient du grec, dia, ballo, ballo, je jette, dia, à travers. Le diable, c'est celui qui est sur la rectitude de votre morale et la droiture de votre chemin, vient se placer un obstacle. Voilà. Comme on dit dans le midi, il vient se mettre de par le milieu. Voilà. Vous connaissez aussi le mot grec diaspora. Hein? Spora qui s'éparpille, dia, à travers le monde entier. Un mot sur épi, qui qui est aussi extrêmement fécond, épi qui veut dire sur, contre ou après. Alors, dans le sens de après, on comprend enfin l'origine du mot éphèbe. Épi, ébè, vous le voyez, veut dire mot à mot après jeunesse. Ébè, c'est la jeunesse, et avec une majuscule, c'est la déesse de la jeunesse. Donc, l'éphèbe, c'est celui qui vient, voilà, c'est l'âge où l'on sort de l'adolescence, et vous comprenez que le pi est devenu phi, puisque ébè commence par une voyelle à esprit rude. Donc, la labiale sourde est devenue labiale aspirée. Voilà, on emploie aussi beaucoup épiphénomène, hein, qui est un avatar secondaire d'un événement principal, et le mot épithète, hein, que nous avons appris en grammaire comme étant l'adjectif qui accompagne le nom, c'est celui qui est posé, tête, épi, à côté, tout simplement. Un dernier mot sur les deux derniers préfixes du grec qui sont, qui sont les mêmes. Non, ce sont plutôt les frères aînés des deux préfixes latins équivalents. Uper, qui veut dire au-dessus, pour adonner en latin super. L'esprit rude est tombé, mais a, comment dirais-je, a engendré un S. C'est assez fréquent en latin. Donc, le supermarché ou l'hypermarché sont censés avoir des dimensions similaires. Or, hyper, ça semble toujours plus grand que super. Et loin de me... comment dirais-je, de m'inquiéter de ce phénomène, j'y vois encore l'arrivée de l'imaginaire avec les sons qui modifient les mots et qui en font une autre réalité. Voilà. Alors, hupo, du grec qui veut dire sous, a donné en latin sub. Là aussi, l'esprit rude est tombé en laissant un S, le O final est tombé, et le pi qui se retrouvait soupe s'est sonorisé dans la labiale correspondante, soub. Voilà. Mais soub et upo, c'est la même chose. Alors, upo a donné en français hypo, H, Y, et on l'a réservé au vocable scientifique. On vous parle de l'hypothèse, c'est ce qui est placé, thèse, c'est comme tête de l'épithète, placé hupo dessous. Et puis, vous connaissez aussi la ligne qui se tient en dessous de l'angle droit,
l'hypoténuse.
Voilà. Alors, ténuse, ten, c'est ce qui est tendu. L'hypoténuse, elle se tend en dessous de l'angle. Voilà. L'explication étymologique. Alors, nous en avons fini avec les préfixes, mais pas avec la leçon, parce que le mot n'est pas encore fini. Il nous manque quelque chose. Je peux effacer le plan maintenant ? De toute façon, je remettrai les choses au fur et à mesure. Voilà, il nous manque la désinence. Donc, je crois que nous en sommes au cinquième mot. Voilà, au petit saint. Je ne sais plus si je les ai mis en chiffre romain ou en chiffre arabe. Peu importe.
En chiffre romain.
En chiffre romain. Sur le plan... sur le blog, c'est un chiffre romain. Alors, la désinence. C'est ce que nous avons appelé, quand nous étions à l'école élémentaire, la terminaison. J'allais dire étourdiment, mais la terminaison, c'est trop général. Je ne suis pas sûre que la désinence, ça fasse plus particulier. En tout cas, c'est le marqueur qui, à la fin du mot, donne toute l'identité de ce dernier. L'insère dans un schéma grammatical. Tout ce qui a existé avant, étymon, infixe, suffixe, préfixe, apporte des valeurs sur le sens. Et plus il y en a, plus le sens est, subtil, approfondi. Mais il faut donner des indications pour savoir s'il s'agit d'un verbe, d'un nom, d'un singulier, d'un pluriel, d'un féminin, d'un masculin, etc. La désinence donne donc le marqueur grammatical et achève l'identité du mot que l'on veut construire. Alors, nous en avons vu quelques-unes. Jusqu'à présent, je la mettais entre parenthèses, hein, puisque nous ne nous intéressions qu'à l'étymon. Les go, qui veut dire et qui a donné en latin les go avec un o long, veut dire au départ je trie, je cueille. Voilà, et c'est le oméga ou bien le o long du latin qui va indiquer que le mot est un verbe et que je suis à la première personne. Et vous savez, parce que vous parlez tous un petit peu espagnol, italien, portugais ou d'autres langues, que le O se retrouve encore de nos jours, hein, comme marqueur, comme désinence de première personne du singulier, en tout cas du présent de l'indicatif. Pour les noms, eh bien, on aura un autre marqueur. Hein, j'ai choisi des mots qui correspondent en grec et en latin. On a vu le mot maison, domos, et en latin je le mets tel qu'il est avant apophonie, hein, dom os qui se fermera en domus. Eh bien, nous avons une désinence double qui est formée de ce qu'on appelait une voyelle de liaison, qui est tantôt le A, tantôt le O, et puis de la finale S. Et cette finale indiquait à la fois qu'il s'agissait d'un mot singulier et au cas nominatif, c'est-à-dire le cas qui indique que le mot est dans la position de sujet qui fait l'action dans la phrase. Alors, là, j'ai choisi un exemple simple où on a mis cette voyelle de liaison. Parfois, elle n'y est pas, et la terminaison, la désinence S, rencontre la consonne précédente. Et là, c'est à nouveau des combinaisons extraordinaires, hein, mais on en a déjà vu. Hein, la loi, l'ex, parce que ça n'est pas la même déclinaison, ne va pas pouvoir rester en l'état. Hein, ce est une sifflante sourde. Donc, la précédente s'assourdit. Hein, l'ex, et ça donne l'ex avec, avec x. Mais le x, hein, n'est que le résultat du radical suivi de la désinence de masculin singulier. Voilà. En français, vous savez que le E est la désinence du féminin, que le S est la désinence du pluriel, que ENT est la désinence de la troisième personne du pluriel pour un verbe, etc. Voilà. On a maintenant tous les éléments pour reconstituer le schéma du mot « Je vais essayer de vous faire un joli tableau qui reconstitue voilà, le profil d'un mot. Alors, au départ, on peut avoir une racine trilitaire. Hein, ou bien, on peut avoir racine plus suffixe primaire, j'écris un abrégé, avec, je le mets entre parenthèses, éventuellement un élargissement. On a vu ça la dernière fois, le élargissement N qui vient actualiser une action. Et lorsqu'il s'agit de racine plus suffixe plus tout cela, là on a un thème. Mais en tout cas, que ce soit racine ou thème, on part toujours de l'étymon, évidemment. Et à ce thème, on va ajouter à date historique les suffixes secondaires. Ben, j'en mets qu'un. Et là, à date historique aussi, je vais avoir un radical. Le radical, c'est le thème originel ou la racine originelle plus les éventuels suffixes qui ont été ajoutés. Et à ce radical, j'ajoute la désinence. Il y en a toujours une, en principe. Et là, eh bien, j'ai mon mot en entier. Je vais mettre ici, hein, préfixe entre parenthèses. Et là, j'ai enfin, voilà, la structure du mot. On est parti de trois petites lettres. Et on peut arriver à anticonstitutionnellement, sans problème. Est-ce que tout le monde a émargé ? Alors, pour essayer de récapituler tout cela, je vous propose que nous fassions ensemble quelques exercices. Et cette fois, je donne la racine, l'étymon de départ et le mot final. Et c'est à vous, avec vos connaissances, à essayer de retrouver tout le parcours. Ne vous inquiétez pas, on va s'y atteler tous. Alors, je vous en donne deux. Ah, voilà. Donc, il en manque un. Pour votre... Alors, voilà le point de départ. À partir des étymons suivants, rendez compte de chaque élément, des mots qui en sont issus, en grec et ou en latin. À partir de la première, du premier étymon, je vous demande de reconstituer le chemin de formation de pango, qui veut dire je fixe, et de pax, qui est de la même famille, hein, comme pacte d'ailleurs, c'est quand on a fixé des contrats, des armistices, des... Voilà, donc je vous laisse un petit peu réfléchir. Évidemment, vous avez le droit de regarder les cours précédents. Où faut-il chercher pour trouver l'explication du A de Pango et de Pax? Voilà. H2. Ça, c'est réglé. Thank you. Parce que c'est vrai.
Non, mais c'est, j'aime bien le jeu d'être.
Ça y est, vous avez un peu fait le tour. Comment ?
Il y a un affix qui a pas bien.
Bien sûr. Voilà, je ne veux pas vous faire souffrir trop longtemps, mais petit à petit, vous allez vous familiariser. Alors, le P n'a pas changé depuis l'indo-européen, bien sûr. Hein, donc, P donne, donne P. Et si on fait le choix de E choix 2, eh bien, on se rappelle que ça donne le A. Comment expliquer ce N ? Eh bien, le N, c'est
une épenthèse.
Ce n'est pas une épenthèse.
Non. En fait, fixe.
C'est un infixe. Voilà. Et le gue reste, le gue de l'indo-européen reste gue. Et puis le O, eh bien, c'est la désinence. Voilà. Alors, vous allez dire, mais je vous ai appris que un infixe ne se forme que sur un thème 3, c'est-à-dire quand il n'y a plus la voyelle. Mais c'est pareil, je vais de, donne A en latin. Donc, si vous avez trouvé tout ça, c'est parfait. Et si vous vous êtes rappelé que l'infixe ne se forme que sur le thème 3, il faut commencer par dire que on ne peut pas partir tout à fait de cette racine, mais de P, je vais de G. Voilà. Et là, on a une explication parfaite. Mais, écoutez, comme je dis toujours, hein, on est là pour découvrir... On n'a pas besoin d'affiner parfaitement. Pour le mot pax, et d'ailleurs j'aurais dû le mettre en premier, eh bien, là c'est la même chose, hein, que ce soit thème 1 ou thème 3, mais là ça peut rester thème 1, eh bien, cheval 2 ou e cheval 2 donne PA, le, au départ c'est pags, et le S de la désinence, hein, voilà, comme tout à l'heure, l'ex, et puis ça va devenir pax, parce que la gutturale sonore s'assourdit devant le S, et le latin, graphie CS, par un X, voilà, pax. Alors, c'est une racine très féconde. Le pacage, le fait de paître, ça vient aussi de cette racine-là où on fixe le troupeau dans un endroit déterminé. Alors, la suivante. La suivante, qui essaie de faire un petit commentaire ? Allez, qui essaie de se lancer ? Non, vous préférez écrire. Voilà, alors je vous laisse un peu de temps. C'est bon pour les deuxièmes?
Oui.
Vous vous lancez?
Bah écoutez, pour le en grec, donc le choix de H2 l'année à court.
Je l'ai écrit en latin.
C'est-à-dire un alpha esprit rude, gamma et le.
Pourquoi esprit rude? Non, c'est l'esprit doux.
L'esprit doux, pardon, l'esprit doux.
Esprit doux.
Gamma.
Oui. Voilà.
Et le haut long de première personne du présent.
Voilà, la désinence. C'est vraiment, la désinence s'ajoute au radical, à la racine originelle, hein, avec choix de ze. Il faut préciser, voilà, choix de ze. Choix de ze qui donne a. Et pour Sobigo, vous voulez continuer?
Oui.
Allez-y.
Eh bien, écoutez, il y a d'abord le Ago.
Voilà. Il y a d'abord Ago.
Alors le Ago qui vient toujours du choix 2.
Tout à fait. Donc,
auquel on rajoute
étymologie.
Voilà. Devant le préfixe sub.
Voilà.
Et ensuite, entre sub et Ago, j'imagine qu'il y a une apophonie.
C'est voilà. Ça. Donc, ce que vous écrivez sur votre feuille, vous mettez l'astérisque et vous commencez par écrire sub Ago en mettant entre deux le tiret qui distingue préfixe et radical, voilà. Et puis vous mettez aussi un tiret entre le g et le o désinentiel, et puis
l'apophonie.
Voilà, sub-igo, et on dit par apophonie. Et si vous voulez vraiment épater la galerie, vous précisez avec perte de 2 degrés d'aperture.
C'est ça.
Voilà. Puisque ça aurait pu simplement donner un e. Mais ça s'est carrément fermé en I, donc perte de 2 degrés d'aperture dans la qualité de la voyelle. Et évidemment, subigo veut dire mot à mot poussé par en dessous, c'est-à-dire insidieusement, d'où le sens de forcer, contraindre. Voilà. Alors, je vous laisse continuer avec la racine de la lumière. Non, le thème, c'est un thème. Est-ce que quelqu'un se lance pour la lumière, ou vers la lumière? Personne? Je suis sûre qu'il y en a qui ont tout bon. Non, par Cécile? Non. Bon. Quelque chose vous empêche? Dès qu'il y a les sonantes, hein, le W et le U. Alors, on ne parle pas de W.
Le W, est-ce que
c'est ça? Voilà, il faut dire le W.
Le W vocalise.
Voilà, se vocalise. Et même en grec, il commence par passer par une sonante qui a disparu en cours de route. Voilà, le digamma. Alors, la lumière. On reviendra d'ailleurs sur cette notion de lumière et de brillant. Donc, que se passe-t-il? Le L indo-européen donne lambda, pas de problème. Visiblement, c'est le E vocalique, bien sûr. Donc, choix vocalique plein. Alors, le WE, cette sonante de l'indo-européen, devient très certainement d'abord digamma, hein, et puis après va se vocaliser, hein, voilà, donc, voilà, se vocalise en upsilon. Et puis, on ajoute le que, la gutturale que l'on graphique à pas, et os, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure, la désinence avec voyelle de liaison. Elle n'y est pas toujours. Hein? Voilà. Alors, le cos veut dire brillant. Et en fait, ça a donné le sémi, le cosite. Parce que pour les anciens, ce qui était brillant était en grande proximité de ce qui était blanc. Et petite anecdote concernant cette notion chez les Latins qui avait la même. Lorsqu'il y avait des campagnes électorales, ils revêtaient une toge de lin blanc parce que le lin est brillant. Et c'est de là que vient le mot candida, parce que candidus, ça voulait dire blanc. Donc le candida, c'est celui qui mettait son smoking de campagne électorale, qui était la toge blanche, la toge brillante. Parce qu'évidemment, il faut bien comprendre que la notion de visibilité n'est pas une notion liée à la télévision et aux médias. Hein, ça a été de tout temps comme cela. Voilà, c'est intéressant. Bon, le blanc et le brillant étaient en proximité de sens. Oui.
Non.
Alors, l'autre mot, lux, que se passe-t-il en latin? On l'a vu, on a vu que c'est une règle générale. Le latin se simplifie la vie. Comment est-on passé de eu ou de ou à ou tout seul? Je vous avais donné un tableau un peu compliqué en vous disant tout est là. Voilà, réduction de diphtongues. Les diphtongues n'intéressent pas les latins, alors que les grecs les gardent quasiment toutes. Donc, que ça vienne de eu ou de ou, on parie de toute façon que le ou est long, parce que c'est le résultat d'une réduction de diphtongues. Hein, voilà. Donc, l'eau ou l'eau, hein, ça donne loup par réduction de diphtongue. On ajoute le que indo-européen qui se graphie avec notre C que nous avons rendu sifflant. Hein, et on ajoute directement la désinence S que l'on va graphier comme tout à l'heure. Avec Pax et avec Lex, que l'on va graphier X. Voilà.
Et le S, il signifie quoi?
Alors, le S, c'est la désinence de nominatif singulier des noms en latin et en grec. Voilà. Parfois précédé de O en grec ou de U, le O apophonisé. Hein, voilà, tout à l'heure on avait vu domos, domus. Voilà. Je vous propose une petite pause parce que il nous en reste encore trois. Mais de toute façon, sachez qu'à partir de maintenant, on va passer à la troisième partie de la leçon. Et là, fini les phonèmes, les astérisques et l'indo-européen. On va travailler sur la vie des mots de manière plus proche de nous. Vous allez moins souffrir. Plus souffrir du tout.